L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de
la
moutarde.
La librairie est le lieu de tous les possibles. Qui sait, au détour d'un rayonnage, vous pourriez rencontrer le livre de votre vie. Le rayon philosophie est particulièrement propice à ces rencontres fortuites et indispensables. À ceux qui sont épris de sagesse, notre invité d'aujourd'hui attirera votre attention et sera, peut-être, le fil d'Ariane de votre prochaine rencontre littéraire. Vous écoutez L'Épluche Livre. Et nous recevons aujourd'hui M. Jean-Louis Siani.
Ma lettre préférée, moi, c'est le F. François et ses frères font gaiement la farandole, autour d'un feu de fagot flambant. La farandole, c'est fatigant, la farandole, c'est fatigant.
Monsieur Siani, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation un peu au pied levé.
C'est moi qui vous remercie.
Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ?
Oui, ben, je suis un ancien journaliste. Mm-hmm. Je suis né à Sète.
Oui.
J'ai fait toutes mes études à Montpellier, notamment avec un philosophe qui s'appelait Michel Henry.
Oui.
C'était un grand, très grand philosophe. Et ensuite... Après un échec ou deux à l'agrégation, j'avais un plan B qui était la presse et j'ai rapidement, les portes se sont ouvertes. Donc j'ai fait toute ma carrière d'abord dans la presse et puis ensuite j'ai obliqué sur la communication. J'ai dirigé l'agence Anatome, qui est une agence de communication publique à Montpellier. Et ensuite j'ai été directeur de la communication d'Air Littoral, la compagnie aérienne. Et j'ai fini ma carrière à la communauté d'agglomération de Sète.
Très bien.
Voilà.
La boucle est en
bouclée. Et ensuite, je me consacre maintenant entièrement à l'écriture, ce que je voulais faire depuis le départ.
Votre parcours d'auteur, justement, vous écrivez des livres depuis 2010 déjà?
Non, depuis 2004. Le
depuis
premier
2004.
Est paru en 2004. J'ai connu une épreuve, une expérience que beaucoup connaissent, mais que moi, à 50 ans, je ne savais pas ce que c'était, qui s'appelle le chômage.
D'accord.
Et à 50 ans, avec une épouse qui travaille encore à mi-temps et deux enfants en fac, on a un peu la peur de sa vie, quoi. Et donc, à un moment donné, le temps, ça s'éternisait, parce que pour retrouver un poste de cadre tel que j'avais, c'était difficile. Je suis retourné à ma bibliothèque de philo et j'ai commencé à lire les stoïciens. Et j'ai eu l'idée ensuite de faire un ensemble de méditations autour des différentes pathologies du chômeur.
Oui.
Des douleurs physiques, le temps qui se dilate, l'envie de rien. Et donc, ça s'est appelé « La philosophie comme remède au chômage ». C'est paru chez Albin Michel.
Mm-hmm.
Ça a été traduit en plusieurs langues. Et ensuite, voilà, je me suis enhardi et j'ai continué à écrire, je ne sais plus, sept livres de philo pratique. Hein. Je ne suis pas une universitaire, donc... ce ne sont pas des travaux de recherche sur un auteur ou sur un concept, mais plus une familiarisation à la philo, et la philo au sens de la philosophie antique, c'est-à-dire comme une philosophie qui aide à vivre.
Mm-hmm.
Hein. Philosopher pour mieux vivre, c'est l'annonce de mon site internet. Hein, voilà.
Très bien.
Philosophie comme thérapie. Voilà.
Oui, 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 mais c'est important et c'est bon de savoir que vos livres sont accessibles même à ceux qui ne connaissent pas, aux néophytes, à ceux qui n'oseraient pas peut-être fureter au rayon philosophie des librairies.
Je m'efforce effectivement de la rendre accessible, mais toujours dans cette dimension. Si vous voulez, mon compteur, il s'est bloqué à la fin de l'époque gréco-romaine.
Il y a déjà
des sujets. Il y a un fond, des ressources. D'ailleurs, aujourd'hui, toute la philosophie du soi-disant du management, du développement de soi, du développement personnel, et tout ça plonge et vous ressort, vous recycle en fait des préceptes qui sont ceux de la philosophie antique. Quoi.
Vous pourriez détailler un petit peu, notamment par rapport au chômage, en quoi ça vous a aidé, en quoi ça a été un peu peut-être salvateur, je suppose, d'après ce que vous dites.
C'est-à-dire, si on considère que la philosophie est un traitement, comme des cachets, alors là, on se trompe.
D'accord.
En revanche, il y a tout un travail qu'on fait, un peu comme quand on fait une psychanalyse, un travail analytique, qui est un travail, en fait, de transformation de soi, mais dans le temps. Vous voyez, j'ai pas retrouvé du boulot parce que j'ai écrit la philosophie comme un remède au chômage.
Oui.
En revanche, je suis révélé à moi-même une dimension que je connaissais pas, c'est celle de l'auteur.
D'accord.
Vous voyez.
D'accord.
Donc il y a toujours un bénéfice, mais qui est un bénéfice au départ inconscient, parce qu'on cherche, on ne sait pas où on va. Et je crois que la philosophie aide, bien entendu, il y a des tas de préceptes pour conduire sa vie de manière très concrète, pour choisir, pour avancer, pour entreprendre, pour en sortir avec l'opinion d'autrui, surtout quand elle est négative et désespérante. Hein. Donc tout ça, toutes ces recettes, on les trouve. Mais il y a tout, de manière plus profonde, un travail sur soi qui se fait dans une pratique.
D'accord.
La philosophie était une pratique. C'était pas un savoir.
Oui, c'était pas un concept uniquement intellectuel.
C'était une pratique, une conduite. Hein. Les stoïciens s'habillaient comme des stoïciens, vivaient comme des stoïciens. Les épicuriens vivaient en dehors d'Athènes, dans le jardin d'Épicure, avec un mode de vie qui était complètement en rupture avec la société athénienne, par exemple. Hein. Chez Platon, il y a de la diététique, ça va jusqu'à la diététique, jusqu'à un art de vivre, quoi. Et puis aussi une dimension spirituelle.
Très bien.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et il faut faire. Alors, moi, je suis stupéfait de voir que les gens achètent des commentaires sur Spinoza sans avoir lu Spinoza. Ça, alors, le bras m'en tombe. Alors, c'est vrai que Spinoza, c'est ardu, c'est très difficile.
Oui, je pense que c'est en tant qu'introduction, les gens ont une approche un petit peu
transversale. Oui, mais l'introduction, vous arrête. Les gens ne vont pas plus loin que l'introduction, dont ils ont lu vous savez qui, et puis ça suffit, c'est pas sérieux. Parce que c'est vrai que Spinoza, c'est difficile, mais il suffit. C'est comme, dans les ruches, quand on ramasse le miel, il reste des sortes de petits chewing-gums de miel. Ben c'est pareil, c'est la même chose. Alors c'est sûr que si vous avez peur des abeilles, vous n'irez pas à la ruche. Mais ce petit truc de miel, là, il va vous donner une entrée dans le monde des abeilles. Voyez. Là, c'est un peu la même chose. Alors, c'est difficile, mais on va essayer de... Ben, on l'apprend, cette phrase, elle est compliquée. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'elle veut dire.
On se confronte en tant que personne. Et c'est comme ça qu'on
se révèle à soi. C'est pas mauvais
qu'on se révèle à soi.
Se stimuler intellectuellement. Quoi.
Oui. Là, c'est un chemin intellectuel. C'est presque une randonnée.
Voilà. Non, mais c'est important. Pour Spinoza, qui a quand même une sorte de couverture linguistique. En plus, c'est traduit, donc c'est très difficile. Mais chez les philosophes antiques, c'est transparent. Quoi.
Donc, la philosophie et vous, c'est une histoire d'amour, amour de la sagesse, amour du bien-être et du bien-vivre, en fait. Hein, voilà, on peut dire ça. C'est quelque chose qui vous est venu donc, pendant votre période de chômage ou il y a eu des éléments avant
J'ai fait philo jusqu'à master et jusqu'à l'agrégation, quand même.
Ouais.
Voilà.
Donc, ce n'est pas quelque
chose... J'ai fait des années de philo. Voilà. Et d'ailleurs, mon roman, mon premier roman, donc... Et dédié à ma prof de philo de terminale et à ma petite fille aussi qui est née pendant que j'écrivais.
C'est la mère et le philosophe ou...
Non, celui-ci, celui dont on va parler, le dernier rêve de Descartes, est dédié à ma prof de philo et à ma petite fille qui venait de naître quand je l'écrivais. Donc vous voyez, la philo et la vie.
Mais parlons-en d'ailleurs, oui, parce que vous disiez le premier roman, j'ai une mécompréhension, j'ai entendu le premier livre.
Oui.
Donc parlons du dernier roman, du dernier livre et du premier roman que vous avez écrit, donc qui est apparu en décembre, en 2024.
En janvier, là, il vient de paraître.
En janvier, il y avait écrit décembre sur la... Bon. Donc en janvier 2025, encore plus récemment que ce qui me semblait, le dernier rêve de René Descartes aux éditions Istia et compagnie. Alors, il y a une petite histoire par rapport à ce nom de maison édition. il me semble que c'était les éditions Slatkin auparavant, avec lesquelles vous aviez l'habitude de travailler.
Non, j'ai écrit, publié enfin, 3 ou 4 livres avec Albin Michel.
Oui.
Et ensuite, bon, mon contact, Albin Michel, mon éditeur, s'appelle, c'est un grand éditeur, il s'appelle Marc de Smet, mm-hmm. qui a écrit, qui a dirigé la collection Spiritualité, oui. Une très belle collection d'Albin Michel, et qui dirige aussi maintenant les éditions Le Relié.
Oui, je vois. Oui,
qui,
oui.
Qui ont publié mes 2 derniers ouvrages, un sur Socrate et un qui est une relecture pardon, de l'Odyssée. Et Marc est aussi directeur du Relié. Et le Relié a racheté Slatkin, mm-hmm. qui est devenu maintenant Istia et compagnie.
Très bien. Voilà.
Donc c'est une très belle maison d'édition qui était basée en Suisse, mm. qui est maintenant au sein de ce groupe du Relié. Bon, voilà.
Non, non, mais c'est intéressant, puisque petit... dans cette émission, on s'intéresse, donc, comme D'accord. vous le savez peut-être, au métier du livre, au monde du livre et aux enjeux qu'il y a aussi derrière professionnels. On a notamment reçu un diffuseur du groupe Madrigal, donc on s'est intéressé à toutes ces petites questions de rachat et de maison mère. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce premier roman?
Alors c'est un premier roman effectivement qui est encore en lien avec, avec la philosophie, puisqu'il raconte d'une manière absolument fictive, mais totalement vraisemblable, les derniers mois de Descartes. Mm-hmm. Derniers mois assez spectaculaires et qui m'ont toujours étonné, puisque M. Descartes aimait beaucoup dormir, il était assez solitaire, et le voilà, il aimait travailler au chaud. Mmh. Rester longtemps au lit, hein, et rêvasser, c'est son activité préférée. Et voilà que pour des raisons assez compliquées, complexes, il va par en Suède, un pays où il fait froid. D'ailleurs, mmh. il dit que c'est au pays des rochers, des ours et des glaces. Et il va là-bas, chez une reine de Suède, Christine, totalement excentrique. Quoi, hein. On n'a jamais su d'ailleurs si c'était un homme ou une femme. Disons que c'était une femme. là-bas, elle lui ordonne de lui donner des leçons de philosophie à 5 heures du matin. Alors, vous imaginez, c'est un des hivers, j'ai vérifié, les plus froids du siècle. Donc il va là-bas, bien entendu, il prend un mal de poitrine, mmh. de poumon, et il en meurt.
Et ça, c'est factuel, donc.
Ça, c'est factuel, ça, mmh. c'est vrai. Donc je me suis dit, pourquoi est-il allé là-bas? Et donc j'invente une réponse à cette question que se sont posées tous les spécialistes de Descartes mmh. depuis le XVIIe siècle, et auquel j'apporte une réponse très particulière, et un peu originale, je pense, qui n'a rien à voir avec sa philosophie.
Très bien.
Je n'en dirai pas plus.
Nous continuerons de discuter de votre travail après la petite pause musicale.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me sai. In mezzo al mare pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene assai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un erica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me. È una catena, e scioglie il sangue di me.
Vous écoutez L'Épluche Libre, nous sommes en compagnie de Monsieur Siani, écrivain, philosophe, penseur. Monsieur Siani, que venons-nous d'écouter ?
Nous venons d'écouter Caruso, d'un chanteur italien, c'est lui qui l'a composé, qui s'appelait Lucio Dalla, et qui parle donc de ce grand ténor italien qui était Caruso. Vous comprendrez qu'avec le nom que je porte, il y a aussi des liens culturel avec l'Italie. Et en fait, cette chanson évoque la mort du ténor et une histoire d'amour. Voilà, donc comme le livre aussi sur Descartes parle d'une histoire d'amour, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ce rapprochement.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter les essais pour passer à la fiction ?
Je trouvais que mes amis étaient assez ingrats et qu'ils lisaient peu mes ouvrages de philosophie pratique, pensant que peut-être à juste titre d'ailleurs, qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc je me suis dit, pour attirer leur attention, je vais écrire un livre complètement différent, un livre qui serait à la fois érudit peut-être, mais en même temps accessible à tout le monde, et où il y aurait alors une sorte de cocktail avec... de la politique, un peu d'érotisme, des rose-croix, donc des francs-maçons dont on parle beaucoup, surtout à Montpellier, une histoire d'espionnage, de la religion, et du libertinage.
Voilà,
j'ai fait ce grand mélange qui fait une sorte de pavé mosaïque, à partir duquel eh bien, j'aborde aussi une période qui est très riche, à la fois sur le plan culturel et artistique, qui est l'époque baroque. Mm. Voilà, c'est la raison de ce changement de pivot d'orientation.
De ce changement de trajectoire. Et je crois qu'il y a un de vos livres qui va bientôt paraître en poche, hein, « Philosopher à la plage », qui avait paru en grand format chez Albin Michel.
Oui, non, c'était un petit format chez Albin.
C'était un petit.
Oui, en 2016. Et qui était en fait qui assemblait un certain nombre de méditations. Mmh. Alors là, c'était après 2016. Vous voyez, c'est après les attentats.
Et oui.
Donc j'ai trouvé que collectivement il y avait une sorte de dépression. Mmh. Quoi. Et donc j'ai voulu essayer de retrouver puisque moi je suis originaire de Sète, donc j'ai un imaginaire maritime, travailler sur la plage. La plage, comme un espace réel, bien sûr, mais bon, ce n'est pas des exercices à faire sur la plage. Hein. C'est une plage intérieure, une plage imaginaire. Et donc, là aussi, j'ai travaillé un certain nombre de méditations autour des loisirs, autour de une sorte d'art de se régénérer à partir d'un espace intérieur, mais qui est aussi un espace extérieur et qu'on peut, à 10 km d'ici, retrouver avec la mer, hein, toujours recommencer, comme disait Valérie, mm-hmm. la plage, enfin, ce contact avec les éléments, hein, oui. Vous voyez, qui sont les premières composantes de l'être pour moi. Voilà.
Très bien.
Donc, ça paraît au début de l'été, je pense.
Oui, oui, oui. Et vous avez parlé, c'est assez intéressant, de vous positionner donc, par rapport... donc ce titre, Philosopher à la plage, qui fait suite donc, à ces tristes événements, il me semble que vous étiez aussi positionné sur le déconfinement, sur cette période-là. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Dès le premier jour du confinement, je me suis lancé sur mon site internet et j'ai fait une chronique quotidienne qui a duré pendant presque un an et qui a été très, très lue. Hein. Donc après de ces chroniques, un ami les a éditées parce que je ne voulais pas trouver un éditeur et faire de l'argent avec cette période-là. Donc on a fait un petit livre qu'on a vendu sur souscription et dont les fonds sont allés à Emmaüs. D'accord. Parce que pour la première fois, Emmaüs lançait un appel à contribution.
D'accord.
J'ai trouvé que... C'était louable. Et donc, on a fait une opération avec Emmaüs et ça leur a rapporté un peu plus de 1100 ou 1200 euros.
C'est super.
Voilà, oui, oui, oui. Et donc après, voilà, le dernier que sur Socrate vient lui aussi après la catastrophe du Covid et essaie de chercher dans les fondements de la philosophie, les premiers temps de la philosophie, c'est-à-dire Socrate, des éléments pour affronter ce monde qui est complètement violent, cruel et déstructuré. Donc j'ai repris un certain nombre de phrases clés de Socrate, connais-toi toi-même, etc. Et je les ai essayé de les appliquer au monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Socrate, médecin pourtant de crise et de catastrophe, ça s'appelle.
Très bien, très bien, très bien. C'est quelque chose, vous sentez qu'on vit une période charnière, une période compliquée ? Actuellement, ou du moins lors de la parution de votre ouvrage, il y a quelque chose qui vous a rendu mal à l'aise ou...
Mais vous voyez, chacun de mes livres, en fait, est le fruit d'une épreuve.
Oui.
Donc, que ce soit le chômage, c'est une épreuve individuelle, quoi, un accident de carrière, mais qui, pour certains, est encore plus difficile que pour un cadre.
Fait,
hein.
Oui.
Et puis ensuite, les autres, j'en ai créé un autre qui s'appelle... les armes d'Hercule pour affronter le monde du travail. Donc ça, c'est sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Mmh. Hein. Vous voyez, c'est toujours quand même, il y a un ancrage concret. Mmh. Les attentats, la Covid, voilà, c'est toujours en lien avec ce que Deleuze explique, qu'on est en fait, on pense en relation avec une époque. Mmh. Hein. On n'est pas un petit penseur dans son coin.
Oui.
On est en lien et en affect avec ce monde. Voilà. Et celui-ci, ben, le dernier rêve, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, dès qu'on écoute la radio, on prend une sorte de shoot de déprime.
Mmh, d'accord.
Hein? Surtout en ce moment, hein? Je n'en dirai pas plus. Mmh. Donc là, actuellement, mon réflexe, c'est la fiction.
Très bien.
Vous voyez, je voyage, j'imagine, j'invente des personnages. Et voilà, je passe ce temps difficile dont je ne perds rien. Hein, je reste toujours vigilant, je surveille, que ce soit l'intelligence artificielle. Bon, celui-ci n'est pas fait avec l'intelligence artificielle, mais bon, voilà tout ce qui nous perturbe aujourd'hui, sur lequel on revient sans cesse. On ne cesse de se créer nous-mêmes nos propres emmerdements, quoi. Et après, on se lamente parce qu'on les a créés.
C'est vrai.
Parce que si vous voulez arrêter tout ça, vous n'achetez plus une Tesla, par exemple, excusez-moi. Je ne veux pas faire de politique.
Non, j'entends bien.
Ce serait tellement
j'entends
simple. Hein.
Oui.
Et après, on se lamente parce qu'on voit un monsieur faire un salut nazi.
On est d'accord.
Bon, voilà, j'en reviens à Descartes.
Est-ce qu'on peut éventuellement, étant donné que vous vivez la philosophie pleinement et elle-même nourrie de votre vie quotidienne, est-ce que vous pourriez nous présenter deux conseils ou un conseil lecture, il me semble que vous m'aviez parlé de deux, c'est pour ça, de titres qui vous ont porté, renouvelé, d'auteurs que vous venez de re-rencontrer peut-être.
Alors, il y a un ouvrage, vous savez, il y a des bouquins qu'on n'arrive pas à tenir dans sa bibliothèque personnelle.
Oui.
Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, par exemple, qui est un livre extraordinaire.
Oui.
Je l'ai racheté 4 ou 5 fois, oui, mais je ne sais pas à qui je l'ai prêté, vous voyez.
Non, mais c'est
et
bien.
Et il en est de même pour un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Convoi de l'eau.
Oui.
Qui est d'un auteur japonais qui s'appelle Yoshimura, et qui est, je trouve, une belle métaphore du monde tel qu'il devient ou tel qu'il est devenu, puisqu'il s'agit de... le narrateur, en fait, travaille dans une entreprise qui va construire un barrage et condamner les villages qui sont autour de ce barrage. Mmh. Donc voilà, un geste de l'actualité, de la modernité, qui détruit, qui croit construire et qui détruit en même temps. Voilà. Et puis, il y a aussi une histoire de rédemption personnelle, qui vient se nouer dans cette première intrigue. Mais je trouve que ce livre est extraordinaire parce que c'est une belle métaphore de ce que nous vivons. Après, il y a la sensibilité japonaise aussi qui est particulière et je trouve très proche de la nôtre. Et puis un autre livre, donc c'est Un monde enchanté.
Le Royaume enchanté.
Le Royaume enchanté.
Vous m'avez dit ça tout à
l'heure. De Russell Banks, voilà, c'est ça. Parce que, et qui est un livre d'un auteur que j'aime beaucoup. Russell Banks, une sorte de Faulkner ou de Flaubert d'aujourd'hui, qui est décédé il y a un an. Et voilà, j'ai relu on en fait des films. Il y a un film qui sort au Canada actuellement.
Ah oui.
C'est un de ces livres qui est porté à l'écran. Enfin, tous ces livres sont extraordinaires. Mmh. Voilà.
Donc, pour les conseils de Jean-Louis Chiani, on parle du Royaume enchanté de Russell Banks aux éditions Actes Sud et Le Convoi de l'eau. Je vais vous laisser répéter le nom de l'auteur, s'il vous plaît, j'ai peur de...
Yoshimura.
Yoshimura, aux éditions Actes Sud aussi. Vous serez à la librairie prochainement, Monsieur Chiani, à la librairie Les Pluchelis?
Oui, bien sûr, avec plaisir, puisque je n'habite pas très loin.
C'est chouette.
C'est le 7 février.
Le 7 février, vendredi 7 février, 18h30.
18h30, oui.
Voilà, le rendez-vous est donné. Si vous souhaitez rencontrer notre invité de ce jour, ça sera à l'Épluche Libre. Donc c'est Tram 2, arrêt La Galine, à Castelnau-le-Lez, vendredi 7 février à 18h30. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était une très belle rencontre. Je suis vraiment ravie. Merci, chers
Moi
auditeurs,
aussi.
Et à très bientôt sur Divergence FM.
L'Épluche Libre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir des pluchures.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.